Donc nous accueillons Bernard Deforge, qui a traduit avec son professeur de l'époque, Louis Bardelais, la pièce qui fait l'objet de toute votre attention, donc les Perses d'Eschyle. Traduction qui n'est pas celle retenue, semble-t-il, par le jury du concours, qui a retenu une autre traduction. Et dans ses explications, Bernard va s'appuyer essentiellement sur l'édition de Garnier-Flammarion. Alors, il va nous parler de la guerre. Il connaît très bien cette pièce. Donc, nous pouvons compter sur Bernard Deforge pour, sans jeu de mots, nous montrer tout le talent d'Eschyle.
Ben merci beaucoup, Jean, de m'avoir convié ce soir. Et puis, merci à tout le monde d'être là. Je suis frappé par la nombreuse assistance. Tu m'avais parlé d'un nombre moins important. Donc, je me retrouve comme dans les amphis que j'ai pu connaître, surtout à Nanterre, parce qu'après, ayant enseigné à Caen, il n'y avait pas dans nos disciplines autant de monde. Donc, ça me fait plaisir de retrouver cette situation. Alors, la guerre, c'est un thème de l'année, hein, puisqu'on est effectivement dans les commémorations. J'imagine que si ce thème a été retenu, enfin, je ne suis pas dans le secret des cerveaux qui s'occupent des programmes, mais j'imagine que c'est un peu lié à cet aspect des choses, et qui est un peu dans l'environnement de cette année de 2014. Bon, donc évidemment c'est une autre guerre, mais comme je suis aussi un élu local aujourd'hui, je m'occupe dans le village où je suis des commémorations aussi de la guerre de 14 et des expositions concernant les engagements citoyens dans la guerre, parce que c'est un peu ça aussi dont nous parlerons. Alors pour parler de la guerre, on a choisi les Perses, mais finalement, on aurait pu, d'Eschyle, choisir à peu près toutes les pièces, hein, parce qu'il y a la guerre dans toutes les pièces, d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, la différence pour les Perses, c'est que c'est une guerre qui a effectivement eu lieu, qui est historique, si je peux dire, et puis à laquelle, surtout, Eschyle a participé. C'est ça que j'avais mis, d'ailleurs, dans le petit mot que j'avais rédigé, en remettant son épitaphe, que vous avez aussi dans l'édition sur laquelle vous avez travaillé, et qui est quand même étonnante, puisque ce qui est mis en avant, c'est d'abord le fait qu'il ait été combattant contre les Perses et contre les Mèdes, avant, si je puis dire, d'être le grand créateur de la tragédie, puisqu'il est effectivement, à mes yeux, le créateur de la tragédie. Alors, je vous ai fait distribuer une petite chronologie où j'ai mélangé les différents plans. Vous avez, bien sûr, c'est des choses que vous allez recouper dans votre livre, et je ne vais pas inventer la poudre, comme on dit. Donc je reprends certains éléments, mais j'ai préféré quand même rappeler certaines choses qui sont importantes. Vous rappeler, parce que vous n'êtes pas tous des étudiants de lettres classiques, donc vous rappeler que les concours de tragédie, ça a commencé en 534 avant Jésus-Christ, à l'occasion des fêtes de Dionysos. L'homme de théâtre, qui s'appelle Thespis, qui est sans doute à inventer quelque chose qui n'est pas encore le théâtre, mais qui est le dialogue entre le cœur et puis un personnage, mais il n'y a pas encore deux personnages, donc était présent lors de ce premier concours tragique à Athènes. Ensuite, 525, c'est la naissance d'Eschyle. 499, ce sont ses débuts au théâtre. Il a comme concurrent, je vous mets des noms pour que ça soit pas Eschyle comme ça en l'air. On connaît Eschyle, Sophocle, Euripide, mais il y en avait d'autres qui ont disparu, dont on a perdu les œuvres. Donc ses concurrents étaient Pratinas et Coirilos, et le vainqueur étant Coirilos et pas Eschyle pour ses débuts. 494, c'est un événement historique qui est important puisque c'est la prise de Milet par les Perses. Et ce sont les événements qui ont déclenché ensuite les invasions perses, c'est le premier signe de ce déclenchement, puisqu'avant il y avait eu des révoltes des cités d'Ionie qui étaient dominées par les Perses et que favorisaient évidemment les Grecs pour qu'ils s'émancipent, si on peut dire, de la tutelle ou de la domination des Perses. Donc les Perses ont pris Milet en 494, et ça a été le sujet d'un drame qu'on a perdu de Phrynikos, notre auteur tragique, qui s'appelait la prise de Milet. Cette prise de Milet avait déplu parce que ça avait trop ému les spectateurs. Là, il faut se dire aussi que ça avait trop ému puisque on était du côté, en quelque sorte, des Perses qui, cette fois-ci, dominaient les alliés des Athéniens, c'est pas les alliés des Grecs, puisque c'est la prise par les Perses Bon, on ne la connaît pas cette pièce, mais on pense que ça a été très mal vu par les Athéniens. Ensuite, 490, première guerre médique, c'est des événements de marathon, hein, donc, vous connaissez, je pense, et qui sont rappelés dans vos volumes. Ensuite, 480, la deuxième guerre médique, c'est Salamine, ça c'est l'événement qui est lié à la pièce des Perses. Ensuite, il y a un troisième événement où les Grecs l'emportent sur les Perses encore, c'est à Platée, donc victoire des Grecs à Platée en 479. 476, Phrynikos, toujours le même, celui qui avait fait représenter la prise de Milet, fait représenter une pièce qui s'appelle Les Phéniciennes. Il y a d'autres pièces qui s'appellent Les Phéniciennes, d'ailleurs d'autres auteurs. Hein. Mais celle-ci, c'est une pièce qui raconte donc les mêmes événements que les Perses, en fait. C'est une pièce qu'on a perdue. Il raconte les mêmes événements. Sans doute le fait-il d'une façon plus réaliste, je veux dire, dans son style, qui était déjà celui de la prise de Milet. Bon, ça, c'est des hypothèses. Et ce que je souligne, c'est que Thémistocle, qui va jouer un rôle ensuite dans les événements de Salamine, était le Corège, qui a joué un rôle dans les événements de Salamine, était le Corège à ce moment-là. Et ensuite, Échille, à ce moment-là, en 476, est vainqueur avec un drame dont on ne connaît pas le titre. 472, ce sont les Perses. Alors, les Perses, c'est le drame le plus ancien d'Échille, le drame conservé le plus ancien d'Échille. Hein, donc, 472. Et là, c'est Périclès qui est le Corège. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Corège, mais c'est celui qui organise le chœur. Enfin, c'est le citoyen riche qui est chargé d'organiser le chœur et d'organisation, si vous voulez, de la mise en scène, enfin, pour parler en termes modernes, et qui a donc la responsabilité financière de tout cela. C'est une façon pour le citoyen de s'engager, c'est une autre manière de payer des impôts, si je puis dire, en s'engageant au service d'un acte de la cité. Donc c'est pas anodin que ce soit Périclès qui était le Corège, comme pour la victoire des Phéniciennes, c'est que ce soit Thémistocle. Alors cette fois-ci, Échille est victorieux avec une tétralogie, puisqu'on faisait toujours représenter quatre pièces, trois tragédies et un drame satirique. Je ne vais pas me lancer dans des détails pour dire ce qu'était un drame satirique, mais un drame dans lequel il y a forcément des satyres, des silènes, etc., mais c'est une pièce comique. Ça vous donne d'ailleurs une idée de ce que pouvaient être ses représentations. Et Échille est donc victorieux avec cette tétralogie, mais cette tétralogie n'est pas liée. Je veux simplement vous dire que la spécialité d'Échille, ça va être d'écrire des trilogies liées, c'est-à-dire le premier drame, le deuxième drame et le troisième drame sont lié, c'est l'exemple étant avec l'Orestide 458 que vous voyez mentionné en dessous, qui est son chef-d'œuvre et qui est une trilogie liée avec Agamemnon, les Coéphores, les Euménides, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui se succèdent et qui donnent le sujet d'un des trois drames. Mais par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans les Perses, elle est isolée par rapport aux autres drames. C'est exceptionnel dans l'œuvre d'Échille. Et puis il meurt en 455 en Sicile. C'est un mystère, enfin, comme dans toute vie. Enfin, toujours est-il que Échille est allé. La Sicile est faisant partie de la Grèce dans l'Antiquité, la Grèce au sens culturel du terme. Pour des raisons qu'on ignore ou qu'on peut supposer, est allé en Grèce, faire représenter des pièces, et il est mort là-bas. Et c'est là qu'il y a son tombeau, qu'il y avait son tombeau, parce que aujourd'hui, quand on va à Gela, en Sicile, on est bien en peine d'imaginer, puisque c'est une ville assez usinière, c'est pas un décor du tout qui fait penser à ce qu'on pourrait imaginer d'Échille là-bas. Donc voilà, je voulais vous redonner tous ces éléments-là. J'ai mis une petite phrase en dessous, comme j'ai mis quelques mots là-haut qui à l'occasion, me feront vous y revenir. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous être utile, évidemment. C'est pas de me faire plaisir pour reparler, même si ça me fait plaisir de parler d'Échille et des Perses. Donc, c'est de vous être utile pour le concours que vous préparez. J'ai donc utilisé, comme c'était pas pour me faire plaisir, j'ai donc utilisé cette édition qui est votre édition. Donc, alors que ça m'est plus aisé, évidemment, d'utiliser ce que j'ai fait moi-même. Mais bon, je m'y prête bien volontiers. Alors, autre point aussi pour vous être utile, c'est la structure des Perses. Vous rappelez l'organisation de cette pièce. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà bien travaillé et ont bien lu ce livre ou ont eu des cours, je n'en sais rien, qui leur ont expliqué tout ça. Excusez, qu'ils m'excusent d'être redondant à ce moment-là, mais je crois que c'est bien de savoir comment se déroule cette pièce. selon une structure, je ne vais pas me lancer dans l'histoire de la tragédie, parce que là, on y passerait toute la nuit, évidemment. Je pourrais répondre à des questions ensuite, si vous le souhaitez. Donc, toutes les pièces tragiques répondent à des règles, à quelques règles, qui ne sont pas si nombreuses que cela, et qui ne sont pas si contraignantes que cela. Mais il y a quand même un minimum. Et le minimum, c'est qu'il y a une alternance de parties lyriques, et de parties lyriques chorales, et de parties dialoguées. C'est toujours de la poésie, mais sous forme, dans une versification différente et sous forme de dialogue. Alors, il y a certaines pièces qui commencent par un prologue. Ce n'est pas le cas dans les Perses, puisqu'on commence tout de suite par ce qu'on appelle la parodos, et la parodos, c'est l'entrée du cœur. Donc, vers 1 à 154, c'est l'entrée du cœur, et c'est le cœur des vieillards, donc Perses, puisqu'on est du côté des Perses, hein. Qui entre en scène de façon solennelle, majestueuse, etc., et qui rappelle le départ, lui-même imposant, lui-même très impressionnant, de cette immense armée perse qui est partie vers la Grèce. Donc c'est une entrée majestueuse, je dirais. J'y insiste, puisque, effectivement, ensuite on aura l'inversion des choses. Ensuite, c'est le premier épisode, vers 155 à 531, qui met en scène la reine, madame, la reine douairière, hein, la mère de Xerxès qui s'appelle Atossa, mais elle n'est pas nommée par son nom, la femme de Darius qui est mort. Hein. Il y a le cœur, bien entendu, qui va dialoguer avec elle, et puis arrivera ensuite le messager qui viendra donner les nouvelles. Donc la reine entre en scène, elle va parler de ses songes, j'y reviendrai, hein, je n'entre pas dans les détails, puis d'une vision qu'elle a eue. De même que le cœur, je ne l'ai pas dit au début quand il entre majestueusement, évoque malgré tout une angoisse qui l'étreint, hein, j'y reviendrai. De même, la reine, évidemment, entre inquiète, préoccupée, et va raconter ses songes, son songe, enfin ses songes, mais un en particulier, et puis une vision qu'elle a eue également pleine de sens. Arrive le messager, à l'intérieur de cet épisode, hein, le messager, vers 249 à 514, qui va raconter les récits de la catastrophe de Salamine, ce qui s'est passé, et tous les événements, j'y reviendrai, l'îlot de Psytalie, le voyage de retour, les morts, les cadavres de tous les Perses à la suite de tous ces événements. Donc, premier épisode. Ensuite, ce qu'on appelle le premier Stasimon, c'est le premier chant du cœur. Le premier chant, c'est l'entrée, mais on ne l'appelle pas ainsi, on l'appelle Parodos. Ensuite, premier Stasimon, vers 532-597, c'est le cœur, évidemment, qui vient d'apprendre tout ça et qui se lamente. Donc, c'est une longue plainte, lamentation du cœur devant la catastrophe qui a touché les Perses. Ensuite, deuxième épisode, oui, c'est cette alternance, partie chorale, partie dialoguée. Deuxième épisode, vers 598 à 851, c'est la reine à nouveau, il n'y a pas beaucoup de personnages, hein. Il y a deux personnages qui dialoguent, enfin il y a deux acteurs, si je puis dire, qui font que deux personnes, mais ça pourrait être plusieurs personnages, évidemment, dans la pièce, puisque les acteurs peuvent jouer plusieurs rôles, mais ici c'est très simple. Donc la reine, le cœur, puis Darius, qui va apparaître sous forme de spectre, et qui va donc constituer ce deuxième épisode. Donc la reine est sur le tombeau de Darius, c'est le rite funéraire. Le mort apparaît précisément de vers 681 ou vers 842. Évidemment, cette scène, cet épisode a une fonction morale et une fonction prédictive, et il va notamment apprendre la fin des récits, puisqu'il y a eu le messager qui a dit ce qui s'est passé jusqu'au moment où il est arrivé, enfin où il a quitté les troupes perses et qu'il est arrivé en Perse, à Suse, pour expliquer ce qui s'est passé. Et là, le roi, en quelque sorte, prend le relais en prédisant comment les choses vont se terminer et en disant ce qui s'est passé ensuite. Et il invite la reine à accueillir son fils Xerxès. C'est le deuxième Stasimon, ensuite vers 852-907, où là, le cœur va évoquer le bon temps de l'époque de Darius, en l'idéalisant d'ailleurs en partie, puisqu'il y a quand même eu déjà Marathon. Et puis ensuite, vous avez l'Exodos, vers 908-1077, Exodos, ça veut dire sortie en grec. Alors évidemment, c'est assez bizarre, si on peut dire, puisque la définition exacte de l'Exodos, c'est tout ce qui suit le dernier chant du cœur. Donc c'est bien l'Exodos après le deuxième Stasimon. Mais l'Exodos commence par une entrée, puisque c'est l'arrivée de Xerxès. Xerxès arrive dans une situation lamentable, et c'est vrai que très vite, on est dans une dans une ambiance funèbre, si je puis dire, et ça va se terminer effectivement par une escorte funèbre. À la fin, ça sera vraiment un exodus, une sortie funèbre de Xerxès dans les derniers vers. Donc voilà le plan, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est très simple comme plan, et il n'y a pas à proprement parler, c'est une des caractéristiques, si je puis dire, oui, du théâtre d'Eschyle, au début d'ailleurs, parce qu'ensuite il va inventer autre chose, mais ça je ne vais pas me lancer là-dessus, c'est sûr que dans l'Orestie, ensuite, surtout à partir des Choéphores, il invente des événements, et on entre beaucoup plus dans un théâtre qui est plus proche de nous, c'est-à-dire avec des coups de théâtre, comme on dit, des revirements, etc. Alors qu'ici, c'est un mouvement beaucoup plus lent et beaucoup plus continu, qu'on retrouvera d'ailleurs très bien dans l'Agamemnon, parce que ce schéma existe dans l'Agamemnon également, et donc il sera fidèle à ce mouvement, qui est un mouvement, je dirais, proche de l'origine de ce que pouvait être la tragédie. Donc voilà, ça c'est pour rappeler les choses. Alors maintenant, je vais essayer de construire mon propos autour de trois... Je ne vais pas essayer de pas être trop long, mais je voudrais citer des passages. Enfin, vous me direz hein, si je suis trop long. Bon, premier point, c'est, puisque c'est votre sujet, c'est les faits de guerre. Les faits de guerre, les événements, tels qu'ils sont dans cette œuvre d'Eschyle. Donc, parce que Eschyle, par cette œuvre, par cette pièce de théâtre, eh bien, il est un témoin historique, comme on dit, enfin, une source historique, plutôt, au même titre qu'Hérodote, hein, dans les livres 7 et 8 des histoires d'Hérodote, qui est un historien. Bon, on se réfère au passage d'Hérodote pour des tas d'événements de l'Antiquité, et notamment pour les événements de Salamine, notamment dans les livres 7 et 8 des histoires, historiae d'Hérodote. Mais vous avez d'ailleurs, dans votre livre, hein, je l'ai lu attentivement, vous avez, page 206 à 210 de votre livre, vous avez les pages qui citent les passages d'Hérodote intéressants et en parallèle. Et puis, il n'y a pas qu'Hérodote. Après Hérodote, parce qu'Hérodote, c'est un peu la même époque qu'Eschyle, vous avez des auteurs beaucoup plus tardifs qui sont donc Diodore de Sicile ou Plutarque qui vont aussi parler de Salamine. Donc, on a tout un ensemble d'œuvres qui parlent de Salamine. Mais évidemment, là, c'est quand même extraordinaire. Vous avez quelqu'un qui a combattu à Salamine comme à Marathon et qui est donc un témoin des événements. C'est donc évidemment le meilleur témoin qu'on puisse avoir pour parler de la guerre, parce que ce n'est pas une guerre littéraire, hein, c'est une guerre qu'il a faite, un peu comme, comme en XXe siècle, par exemple, les romans, enfin les textes de Ernst Jünger, par exemple, comme Orage d'acier, qui, ben, évidemment, il était soldat ou officier à la guerre de 14, et quand il parle des événements de la guerre, il est. Je ne vais pas dire il les transcende, c'est exagéré, mais enfin, il en fait une œuvre et c'est aussi quelque chose qu'il a vécu. Il n'est pas le seul. Hein. Je donne cet exemple parce que Eschyle était un combattant, comme le dit son épitaphe. Donc, c'est important de le regarder aussi comme cela. Alors, je vais prendre en suivant hein, l'œuvre. Si vous avez votre livre, ben, ça vous permet de le suivre. Hein. J'ai fait mes petites références comme ça. Vous avez donc, d'abord, on a dès le début... Dès le début, page 93-95, donc vers 1, jusque dès le début de l'entrée du cœur, n'est-ce pas, le coryphée au départ, avant le cœur proprement dit, qui nous décrivent l'immense armée qui s'est mise en route avec les alliés et avec la liste, en donnant les noms, n'est-ce pas, et les villes qu'ils ont quittées. Ils ont quitté Suse, Ecbatane, le vieux rempart de la Kissie, etc. Et ensuite les noms tels Amistrès, Artaphrénès, Mégabatès, Astaspès, etc., qui sont des noms perses transposés en grec. Je vous signale d'ailleurs que sur certaines gravures en Iran aujourd'hui, on a retrouvé des parce que Darius et les rois de Perse faisaient graver les noms de leur victoire, si on peut dire, ou de leur combat et de leurs alliés sur des murailles. On a retrouvé des listes aussi de noms, dont certains d'ailleurs, il y a un texte de Dumézil, enfin, qui est intéressant parce qu'il a fait des rapprochements entre les noms que nous avons là et des noms qu'on retrouve sur des parois en Iran. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, on a ensuite les Perses eux-mêmes, mais aussi les alliés, hein, toute l'Asie, si on peut dire, qui vient, puisque vous avez ceux qui viennent depuis le Nil, vous avez ceux qui viennent de d'Égypte, donc Memphis, l'antique Thèbes, les Lydiens, ensuite les habitants de Babylone, donc toutes les régions qui étaient dominées par les Perses, eh bien, sont... en même temps les alliés, si on peut dire, même s'ils étaient dominés, c'était un système, les Perses avaient un système qui n'était pas, je ne vais pas défendre le système perse, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que les peuples étaient, bénéficiaient d'une certaine autonomie, en quelque sorte, dans cette domination. Bon, donc vous avez la liste des chefs, et d'ailleurs le nombre est même donné, puisque on nous dit, page au vers 337-343, oui, plus loin si je ne me trompe, page 115, il nous donne même un nom qui correspond un peu à peu près à ce qu'il en est, hein, ce qu'on sait, puisqu'il dit qu'il y a 10 fois 30, donc les Grecs 10 fois 30 vassaux, et encore à côté 10 navires. Xerxès, lui, je le sais bien, en alignait 1000 dans la flotte qu'il conduisait, plus 207 croiseurs rapides. Alors, c'est des chiffres qui sont un peu assez proches de ceux qui sont donnés aujourd'hui par les historiens, comme vous trouvez dans votre introduction. Donc, vous voyez, il y a un côté témoignage. Ensuite, vous avez le pont de bateau, page 95. Excusez-moi de prendre le chiffre des pages comme ça, mais au lieu des vers, mais ça permet de vous repérer. Donc, page 95, vous avez donc le pont de bateau. Vers 65 et suivant, n'est-ce pas ? Et maintenant, elle a traversé l'armée du roi dévastatrice et rejoint la terre voisine sur l'autre rive en franchissant par un pont encordé de lin le détroit d'Ellé, fils d'Atama, etc. Donc, c'est le Bosphore qui est traversé par les Perses qui construisent, effectivement, qui mettent des bateaux, qui attachent des bateaux, et ça permet évidemment de traverser et de joindre, je dirais, l'Asie et l'Europe de cette façon-là pour réaliser l'invasion. Et on en reparle évidemment beaucoup plus loin également, page 139, vers 721-724. Voilà comment, c'est Darius qui pose la question, comment l'armée a traversé. Eh bien, il a accompli cela, mon fils, il a fermé le grand Bosphore, effectivement. Donc ce pont de bateau qui avait frappé les esprits est évoqué ici, c'est un élément essentiel. Ensuite, je vais accélérer un petit peu en vous donnant juste les références. Ensuite, on nous dit bien qu'Athènes a été prise, page 105, vers 233, hein, parce que c'est vrai que les événements ont fait qu'Athènes a été abandonnée en quelque sorte, même si ensuite les Grecs l'ont emportée. Mais la cité est sauvée, hein, donc on le sait, page 115, vers 348-349, sauvée par la victoire de Salamine, évidemment. Ensuite, la catastrophe de Salamine elle-même, alors là, c'est page 109 à 111, vers 272 à 273, par exemple, je vais vous lire ça, voilà. La situation est catastrophique, puisque le messager dit que les rivages sont pleins de morts, tués misérablement, les rivages de Salamine et leurs abords. Donc, on a un spectacle catastrophique qui est décrit, également vers 284, aux désolations d'ouïr ce seul nom, Salamine. Par contre, on apprend que Xerxès est vivant, que Xerxès, lui, s'en est sorti. Xerxès, quant à lui, est vivant et voit le jour, 299, vers 299. J'essaye de retenir les faits. Alors, la bataille elle-même est racontée, bien entendu. Il y a le fameux épisode de la ruse de Thémistocle avec le personnage qui s'appelle Sikinos. Mais Échille ne nomme pas, d'ailleurs, c'est très important qu'il ne nomme pas le personnage qui est venu parler aux Perses et qui a fait que les Perses sont tombés dans le panneau, comme on dit, et ont pu ainsi être vaincus, puisqu'ils se sont en quelque sorte resserrés dans l'espace près de Salamine, et les Grecs qui étaient soi-disant, qui voulaient s'en aller, en fait, les ont assaillis et les ont massacrés. Donc ça, c'est vers 355 et suivant, n'est-ce pas ? Donc je reviendrai un peu sur ce passage aussi. Ensuite, vers 393, pendant la bataille, il y a le péan chanté par les Grecs, hein, qui sont extrêmement, ardents, n'est-ce pas ? Allez, fils des Grecs, délivrez votre patrie, délivrez vos fils et vos femmes, dont un épisode important. Toute cette longue tirade du messager, je vous laisse la lire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui décrit effectivement cette bataille terrible. Ensuite, il y a l'épisode de l'îlot de Psytalie, c'est-à-dire c'est un épisode important, puisque c'était l'organisation du piège pensé par Thémistocle a fait que les Perses, croyant que les Grecs allaient s'en aller, eh bien, sont venus se mettre sur cet îlot qui s'appelle l'îlot de Psytalie, pensant ensuite pouvoir massacrer les Grecs qui survivraient. Alors que c'est l'inverse qui va se passer, puisque les Grecs, au contraire, vont attaquer les Perses qui étaient sur cet îlot, et c'est notamment un allié, enfin, quelqu'un qui s'est réconcilié avec Thémistocle, qui s'appelle Aristide, qui a envoyé ses soldats, et vous avez ça au vers 447 et suivant. C'est un épisode également extrêmement violent, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est, je donne cet exemple, on pourrait lire d'autres passages, n'est-ce pas? Le dieu donna aux Grecs le prestige naval, ceux-ci aussitôt de revêtir leurs cuirasses de bronze et de bondir de leurs vaisseaux. Bientôt, ils cernaient toute l'île et entravaient les nôtres de quelque côté qu'ils se tournent, leur jetant des pierres à toute volée. Les arcs tendus, les flèches s'abattaient et les tuaient. Enfin, après s'être rué sur eux d'un seul élan, il roue de coups les malheureux, il les démembre jusqu'à temps qu'il leur ait ôté la vie à tous. Voilà. Et puis Xerxès, comme ça nous est écrit, ça aussi c'est un fait historique, si on peut dire, Xerxès est sur une colline qui est la Igalée, et il voit de là-haut, je sais pas, comme son, je veux dire, il y a des chefs qui sont dans la bataille au milieu, d'autres qui, c'est à deux manières d'amener la stratégie, je ne suis pas un militaire, mais Napoléon pouvait être au milieu de ses troupes. Là, Xerxès regarde et donne des ordres, j'imagine. En tout cas, il assiste là, évidemment, à la catastrophe, et ça nous est donc évoqué ici vers 465 à 467. Et puis ensuite, le retour en désordre, après cette catastrophe, ils essayent de revenir vers leur pays en remontant vers le nord, en retournant vers l'Asie, et tout ça est décrit à partir du vers 480. En plus, c'est l'hiver, donc il leur arrive les pires catastrophes. Donc, c'est une situation évidemment épouvantable que connaissent les Perses et qui est décrite ainsi par Eschyle. Et puis vous avez l'annonce, pour rester toujours sur ce plan auquel je veux me tenir des faits historiques, vous avez l'annonce de la bataille de Platée, ça c'est page 147 de votre édition, et c'est donc au vers 817, puisque Xerxès, à ce moment-là, laisse en Grèce un de ses généraux qui s'appelle Mardonios, et qui va livrer... Les Grecs vont livrer une bataille contre lui, il va être battu également sans genou à plate couture, à Platée, et vous avez ça donc au vers 817, donc c'est également l'annonce de cet événement qui est, je dis annonce, parce que c'est Darius qui le dit, c'est Darius, au moment où il apparaît, qui évoque ce que justement le messager n'avait pas pu raconter, il ne pouvait pas annoncer. Donc voilà, on a à travers cette œuvre les grands moments de la bataille de Salamine, et qu'il décrit, donc, comme je le dis, en témoin, un peu en connaisseur de la guerre, si je puis dire, et pas seulement en référence littéraire. Alors, j'ai pris, par exemple, un volume, juste pour vous montrer, parce que la guerre, elle est partout dans les textes grecs. Elle est, bien sûr, dans l'épopée. Elle est dans l'Iliade, puisque l'Iliade, c'est la guerre, comment on pourrait dire, c'est le parangon de la guerre, c'est la guerre en soi, qui oppose sous les yeux des dieux, et c'est même la guerre des dieux, si je peux dire, entre les Troyens et les Argiens. Donc, quelqu'un comme Eschyle est nourri de tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il écrit, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il a effectivement participé. Ce n'est pas une guerre littéraire fondée sur des souvenirs de l'épopée. Et par exemple, si vous avez lu, par exemple, j'ai pris un passage de l'Iliade au chant 14, vers 410-468, je ne vais peut-être pas lire tout ça parce que c'est beaucoup, mais qui nous décrit le moment où les Argiens, lorsque les Argiens eurent vu Hector s'éloigner, ils redoublèrent leurs assauts contre les Troyens et songèrent à se battre. Le rapide Ajax, fils d'Oïlée, fut largement le tout premier. Il s'élança contre Satnios et de sa pique à la hampe de Hètre le blessa. C'était le fils d'Enops, j'imagine. Alors, le fils d'Oïlée, à la langue fameuse, s'étant approché, le blessa d'un coup contre le flanc avec sa pique. L'autre se renversa, et autour de lui, Troyens et Athéniens, de nouer une violente mêlée. Bon, la forte javeline se porta à travers l'épaule, il tomba donc dans la poussière, du creux de la main saisissant la terre, et Polydamas de triompher avec une violence terrifiante en poussant un long cri. Donc il y a des descriptions, je saute parce que je ne veux pas être trop long, où vous voyez, par exemple également, à la fin de ce passage, Polydamas, quant à lui, évita la Caire, c'est-à-dire c'est la mort, la Caire noire, en bondissant de côté, et ce fut le fils d'Anténor, Archélocos, qui emporta le trait. Les dieux avaient décidé sa perte. Il le frappa dans la jointure de la tête et du cou à la dernière vertèbre et lui coupa les deux tendons. Sa tête, sa bouche, son nez se trouvèrent dans sa chute au contact du sol, bien avant ses jambes et ses genoux. Donc description extrêmement, extrêmement réaliste et féroce de ce qui se passe. Alors je cite exprès cela, puisque effectivement, dans les passages que j'ai évoqués, je prends maintenant page 119 vers 413-427, ben vous avez évidemment la description dans la bataille de Salamine de choses extraordinaires, n'est-ce pas, même si c'est c'est poétisé, comme je le dirai tout à l'heure. Prenons par exemple 413. « Mais quand fut rassemblée dans cette passe étroite, là où sont tombés donc les Perses, là, le piège, la foule des vaisseaux, bien loin de s'assister, ils s'éventraient l'un l'autre avec leurs éperons de bronze, entrebrisaient leurs rames, cependant que les vaisseaux grecs, les cernant adroitement, les harcelaient. Les carènes se renversaient, à peine encore si l'on voyait la mer parmi toutes ces épaves, tout ce carnage d'hommes, des morts partout, sur les rivages, les récifs. Les vaisseaux fuyaient en désordre à toute rame, tous, ceux du moins de l'expédition des barbares. » Alors cette fameuse image, comme des thons ou des poissons pris au filet, les Grecs, armés de débris de rame, d'épaves, les frappaient et les éreintaient, et leurs sanglots, comme une unique plainte, envahissaient la mer. Donc là, vous avez une scène d'horreur, si je puis dire, de férocité. Là, c'est sur la mer. Là. Tout à l'heure, je vous lisais des passages sur la terre dans l'Iliade, du même tonneau, si je puis dire, c'est de la même. Il y a donc un ton épique, si vous voulez, de la même façon, mais encore une fois, évidemment, Eschyle a connu ces événements. Mais d'ailleurs, il le fera toujours, et j'avais pensé aussi vous lire un petit passage d'Agamemnon, puisque Agamemnon, c'est la guerre de Troie, enfin, c'est la fin de la guerre de Troie, puis c'est le retour d'Agamemnon à Argos, chez lui. C'est le même schéma que dans les Perses, puisqu'on attend le retour d'Agamemnon. On attend le retour d'Agamemnon. Et la légende, évidemment, si vous la connaissez, fait que arrivant chez lui à Argos, il va être tué par son épouse Clytemnestre et son amant Égiste. Donc il vient à la mort, si je puis dire. Mais c'est le même schéma, on est dans l'attente. On est dans l'attente de son retour, on espère que ça va bien se passer, mais là, ça se passe mal. Et c'est la même chose que les Perses, on est dans l'attente. Alors évidemment, on ne va pas voir un mort arriver. C'est un thème que je développe souvent là-dessus, parce que Xerxès est vivant, parce que Eschyle ne va pas changer l'histoire. Xerxès est vivant, mais quand il arrive, il est comme un mort, il pourrait être sur une civière, hein, et il est complètement détruit. Donc il y a cette espèce d'attente de l'arrivée du mort qui est au cœur de la conception de la tragédie d'Eschyle. Alors, dans Agamemnon, il y a également l'évocation, évidemment, par le cœur et par les messagers de la guerre qui oppose les Troyens et les Grecs. Et par exemple, je vais noter dans mon édition ici, vers 541-566, il y a un très beau passage parce que le héros, enfin, pas le messager, c'est le héros, qui évoque justement la guerre. Et il dit nos peines, si je les disais, et durement quand nous dormions, parsemant les passavants en méchantes jonchées. Alors, les passavants, c'est les ponts sur les bateaux, les passages pour aller d'un côté à l'autre des bateaux. Donc là, c'est sur mer. Donc, ils sont dehors, ils dorment sur le bateau. À quel moment, sans gémir et nous emporter, en quelle partie du jour? Et puis sur la terre ferme, c'était encore plus horrible, car nous couchions près des murailles des ennemis. Et du ciel et de la terre, en l'humide prairie, des grains de rosée du haut en bas, nous endommageant, à nos vêtements mettaient des bêtes dans les poils. Et l'hiver, si on en parlait. Le tueur d'oiseaux, comme nous l'avions à nous, insupportable lorsque sur l'Ida il neigeait. Ou le chaud, quand la mer à midi se couche sans houle et point de vent. Pour dormir, elle est tombée. Donc ce passage, je le lis parce que on a un peu l'impression que c'est l'expérience personnelle qu'Eschyle peut avoir des combats. Parce qu'on connaît Marathon, on connaît Salamine, mais enfin c'est un guerrier et qui a participé à toutes sortes d'actions. Donc on voit dans Agamemnon que c'est teinté de vérité personnelle. Donc voilà. Alors maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut dire avant d'arriver à la troisième partie, c'est qu'évidemment, ça, c'est aussi une œuvre qui est à la gloire. Donc il y a d'un côté les faits, Deuxième point, c'est une œuvre à la gloire des Grecs et des Athéniens. Ça, c'est un point évidemment extrêmement important, qui est en lien évidemment aussi avec la guerre. Alors, d'abord, le fait que cela se passe à Suse, chez les Perses, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'il se place du côté des ennemis qui vont subir leur malheur, et tout ça devant le public des Athéniens. Alors, il ne s'agit pas de... On a fait des commentaires multiples là-dessus. Bien sûr, on ne peut pas se mettre dans la peau des Athéniens de l'époque. Est-ce une jouissance malsaine de voir ses ennemis dans une situation pareille ? Bon, sans doute qu'il vaut mieux voir ses ennemis que les siens. Mais l'œuvre d'Eschyle n'est pas construite comme ça, comme je vous le montrerai. Elle est plus subtile, ce n'est pas simplement de nous montrer la catastrophe des ennemis, même si c'est une réalité qui peut faire plaisir. Donc, c'est quand même à la gloire des Grecs et des Athéniens, indiscutablement. Alors, ensuite, vous avez, j'ai noté par exemple, vers 230-245, c'est la reine qui interroge le coryphée. Elle demande, elle veut tout savoir. Mais où dit-on qu'est Athènes sur la terre, le coryphée ? Au loin, vers le couchant, où décline le soleil, notre maître. Parce que les Perses adoraient le soleil, hein. Et pourtant, mon fils a désiré la forcer, cette cité, le coryphée. Qu'il y réussisse et toute la Grèce lui serait soumise, la reine. Mais alors, ils ont sous la main des forces armées si nombreuses, le coryphée. Leur armée est telle qu'elle a déjà fait bien du mal aux Mèdes. Quoi d'autre encore ? Ont-ils assez de richesses dans leur palais ? Ils ont une source d'argent, un trésor enfoui dans la terre. Donc, c'est une allusion à des mines que les Perses... Et la flèche qui décoche un arc tendu en font-ils usage ? Non, mais des épées que l'on tient fermes, des cuirasses, des boucliers... Qui est leur chef ? Quel est-il ? Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une espèce d'évocation de la démocratie grecque. Ils ne peuvent être dits esclaves ni sujets de personne. Mais comment tiendraient-ils la tête à des ennemis et des étrangers ? Assez pour anéantir l'immense et belle armée de Darius. C'est terrible à penser, peut-être. Donc vous avez là, dans cet échange, évidemment, quelque chose qui est à la gloire des Athéniens et que devaient bien sûr apprécier les Athéniens en écoutant cela. Ensuite, vous avez également vers 284-289, voilà, le messager qui dit « à me souvenir d'Athènes, comme je pleure ». Et le cœur dit « odieuse Athènes, quel malheur ! Il faut se ressouvenir comme elle a pour tant de femmes perses, ravies des enfants, un mari ». Voilà. Bon. De même, un peu plus loin, 347-349, est-elle encore intacte, la cité d'Athènes ? Il est solide, le rempart que forment des hommes vivants. Voilà. Donc, c'est toujours quelque chose qui souligne la force des Athéniens. Ensuite, vous avez le Péan, j'en ai déjà parlé, ouvert page 119, parce que c'est vraiment important même pour réfléchir à la guerre, à la conception de la guerre. « Allez, fils des Grecs, délivrez votre patrie, délivrez vos fils et vos femmes, les autels des dieux de vos pères, les tombeaux de vos aïeux, c'est pour eux tous qu'il faut se battre. » Donc là, c'est aussi une façon d'exprimer évidemment la fierté des Grecs et des Athéniens, des Grecs en général, dans ce combat. Enfin, j'ai noté aussi vers 473-477... Voilà, la reine qui se lamente à ce moment-là à l'écoute du messager, elle dit « Oh, daimon hostile », j'ai écrit le mot daimon derrière, en bas, c'est un dieu, le dieu hostile, un dieu, daimon, non explicité, « daimon hostile, que tu as abusé des Perses en leur cœur, mon fils aura cherché, contre Athènes la glorieuse, une revanche bien amère. Étaient-ils pas assez nombreux, les barbares tués à Marathon ? En pensant les venger, il n'a recueilli que cette foule de mots. » Donc, rappel, effectivement, de Marathon. Bon, donc, vous avez une succession. Je vais vous citer encore quelques vers de ce genre. Vous avez vers 584 à 594, vous avez l'évocation par antiphrase, je dirais. On évoque le fait que, du fait que les Perses sont battus, et bien que du coup on n'aura plus la domination, le système politique de la Perse va s'effondrer. Dans l'Asie, on ne vivra plus assujetti aux lois des Perses. On ne leur acquittera plus de tribut que l'on doit au maître. On ne se prosternera plus pour recevoir leurs ordres, car la force royale n'est plus. Donc, par en quelque sorte antiphrase, si je puis dire, eh bien, on pense évidemment aux Grecs qui, eux, n'obéissent absolument pas à un chef de cette façon-là, ce qu'on avait déjà souligné tout à l'heure. Donc, c'est la démocratie athénienne est en quelque sorte en arrière-plan. Bon, vous trouvez également dans le dialogue entre Darius et le Coryphée, vers 715 à 718, vers 790 à 794, vous trouvez évidemment toujours également des allusions à la force des Grecs et à l'erreur que les Perses ont fait de s'attaquer aux Grecs et à Athènes. Prenons, pour ne pas en faire de trop, le vers 824 que j'ai noté dans la bouche de Darius. Souvenez-vous, considérez ces actes et leurs châtiments, et souvenez-vous bien d'Athènes, de la Grèce. Donc, appel de Darius qui devait faire plaisir évidemment aux Grecs. Et puis à la fin, Xerxès évoquera aussi, vers 1025 à 1027, le courage des Grecs. Donc cette œuvre nous apporte les faits, comme je disais. Ensuite, elle nous apporte évidemment, et elle apportait aux Grecs, l'affirmation de leur valeur et de leur force et de leur gloire. Et d'ailleurs, dès le début, au fond, si on lit la pièce, et ça va me permettre de faire le lien avec la dernière partie, dès le démarrage, dès le début, dès la parodos, vers 49-50, les propos du chœur contiennent déjà cela, contiennent cette idée. Le chœur est en train d'évoquer le spectacle, comme le dit le texte, quel spectacle formidable de voir cette armée immense qui s'est mise en route. Mais le chœur dit au vers 49, quel spectacle formidable, ils se flattent les voisins du Tmolos sacré de jeter sur la Grèce un joug de servitude. Eh bien, dans la formulation, elle contient, si vous voulez, déjà, en quelque sorte, la leçon de l'œuvre, l'inquiétude, puisque, au fond, se lancer contre la Grèce, c'est quelque chose qui est voué forcément à l'échec, pense le Grec. Donc même dès le début, il y a cette sorte de d'invincibilité qui est exprimée. Bon, voilà ce deuxième point que je voulais souligner. Et alors, maintenant, je passerai à ce qui, pour moi, évidemment, est peut-être, et même l'essentiel, mais évidemment, votre sujet, c'est quand même la guerre. Donc, c'est la guerre. Donc, il fallait se tenir à cet aspect-là. Maintenant, Eschyle domine ce sujet, le sublime, en quelque sorte. Parce que si les Perses d'Eschyle n'étaient que une sorte de chronique des événements, ou même les passages d'Hérodote sont très intéressants, mais on aime Hérodote pour tout l'ensemble, pas seulement pour cet aspect évidemment lié à Salamine. Mais je veux dire, les Perses, d'abord on les aurait peut-être pas conservés aujourd'hui, cette pièce serait peut-être perdue comme des tas d'autres, puisque vous savez qu'on a conservé que 7 drames d'Eschyle sur 80 qu'il avait écrits. Enfin, c'est déjà, moi je dis souvent, c'est même un miracle qu'on les ait conservés. Mais cette pièce serait peut-être perdue si elle n'était que le récit des événements. Donc cette œuvre, c'est effectivement une œuvre poétique, une œuvre qui prend une dimension beaucoup plus grande, une dimension universelle. Et en quelque sorte, comme c'est d'ailleurs la pensée d'Eschyle, évidemment, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à propos d'événements qui se sont réellement produits, il les transforme en mythes, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vous ai mis sur la feuille que je vous ai distribuée, j'ai mis cette phrase d'Aristote que je trouve, peut-être vous trouvez alambiquée, mais que je trouve une très belle phrase, parce qu'elle explique justement comment, et finalement, ce qu'est une œuvre poétique sur des événements réels. Alors il le tourne dans l'autre sens, il dit « Au cas où le poète compose un poème sur des éléments qui ont eu lieu, il n'en est pas moins poète. » Il faut prendre le mot poète au sens de créateur, hein, au sens grec, c'est pas poète romantique seulement, c'est pas ça que ça veut dire, c'est le poète, poietès, le créateur. Il l'a fait, car rien n'empêche que certains éléments qui ont eu lieu soient de nature telle qu'il est vraisemblable et possible qu'ils aient eu lieu. C'est pour cette raison qu'il en est le poète. C'est-à-dire que, alors, la formule peut vous sembler compliquée, mais je la trouve formidable parce que c'est une façon de dire que les événements qui se sont produits, eh bien, à un moment, deviennent effectivement une œuvre parce que le poète, elles deviennent d'abord une œuvre, et le fait que ça a été des événements, ça devient, finalement, on est dans le domaine du possible ou du vraisemblable. Donc c'est une façon de renverser les choses. Il parle d'événements, il en fait une œuvre, mais là, le raisonnement, c'est l'inverse. C'est une œuvre, et malgré tout, c'est des événements. Et je pense que c'est très bien vu de la part. Aristote ne commente pas ça, hein. C'est dans la poétique. Aristote, le philosophe, donc un siècle après Eschyle, et qui réfléchit à la poésie, aux différentes formes de poésie. Mais j'ai trouvé que cette phrase illustrait bien cet aspect des choses, parce que ces événements-là, évidemment, vont être mythifiés. En quelque sorte, il va en faire un mythe, il va en faire des mythes. Il va le traiter comme il traite dans Agamemnon. Eh bien, de la guerre de Troie, des conflits entre Agamemnon et dans les générations successives, il va traiter cela comme un mythe. Alors vous me direz, les mythes, c'est peut-être des réalités qui ont existé avant, mais là, on retombe aussi dans des considérations du même genre, de toute manière. Et là, on sait que les événements des Perses, c'est des événements historiques qui ont eu lieu. Alors, comment il mythifie ? Alors, j'ai essayé de recenser le procédé. Donc, premier point, c'est la lignée de Xerxès. Vous voyez, au vers 759 à 782, eh bien, on nous évoque toute la lignée de laquelle descend Xerxès. Hein, 759-782, il y a toute l'histoire, comme sont les héros dans l'Iliade, dans les épopées, eh bien, ils ont forcément une histoire, et ils descendent d'un tel, et c'est impossible, d'ailleurs ils descendent d'un dieu à l'origine, donc vous avez cet aspect, il est un héros, au même titre que les héros de l'Iliade. Vous avez par exemple aussi, page 97, le passage où il est décrit, hein, là on est dans la Parodos, et où il est décrit comme un homme égal des dieux, cet homme égal des dieux, vers 79-80. Et vers 80, un peu plus loin, on le décrit, décochant un regard bleu-noir comme d'un serpent meurtrier, armé de 1000 bras, de 1000 nefs, et conduisant son char syrien contre des soldats fameux par la lance. Il amène en triomphant par l'arc les batailles d'Arès. Alors Arès, j'ai écrit Arès aussi, c'est le dieu de la guerre que j'ai écrit derrière moi, qui est nommé de temps en temps, et qui évidemment va très bien pour votre sujet sur la guerre. Il faut savoir que c'est le dieu de la guerre, Arès. Voilà. Donc vous voyez, la description qui est faite ici de Xerxès, elle n'est pas du tout réaliste. Il est un personnage digne, digne des héros de l'Iliade. Il est même comparé à un dieu. Il est décrit avec ses 1000 bras. Et donc il prend une dimension qui dépasse largement la simple humanité. Et vous voyez bien qu'évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, la bataille elle-même, telle qu'elle est décrite, elle prend une dimension épique, bon ça c'est évident, et puis aussi, elle prend même aussi une dimension cosmique, puisque avec ce pont de bateau, on va réunir des continents, on va réunir l'Asie, c'est toute l'Asie qui est présente, et qui envahit, en quelque sorte, la Grèce. Donc il y a aussi quelque chose de cosmique, qui dépasse évidemment les simples événements humains. Ensuite, évidemment, il y a le rôle des dieux. Ça, c'était évidemment essentiel. Le rôle des dieux est omniprésent et constamment là. Et je souligne en particulier, alors j'ai écrit le nom de Athée, j'ai écrit Atta, puisque dans le texte grec, c'est avec un alpha long, mais on dit souvent Athée, hein, Athée, qui est une sorte de notion. C'est une divinité, une notion, c'est pas une divinité au sens, elle n'a pas d'histoire, elle n'est pas née d'eux, etc. Mais c'est une notion très importante et qui est évoquée dans les Perses vers 93 à 101. Vous voyez, on va dire ceci, le texte nous dit, mais le piège qu'ourdit un dieu, quel mortel pourra l'éviter, bondissant d'un élan léger, d'un pied vif, Athée, cette enjôleuse, égare l'homme pour le prendre en ses raies. Nul ne saurait se sauver d'elle par la fuite. Alors, on retrouve le mot dans différents passages. On le retrouve au vers 1007. Mais on le retrouve aussi au sens plus banal de simple malheur. Mais enfin, c'est quand même connoté par athée. Il est au pluriel, au vers 653 et au vers 1037. Donc, il est 4 fois traité dans la pièce, 2 fois simplement nommé ainsi, athée. Et qu'est-ce que c'est que athée ? C'est très important dans la pensée d'Eschyle parce qu'on retrouve ça dans d'autres pièces. Donc, Athée, c'est une sorte de... Je dirais que c'est une pré-psychologie, en quelque sorte, qui existe chez Eschyle avec cela. Donc, il y a une sorte de capacité de comprendre l'aveuglement dans lequel nous sommes entraînés. Alors, bien sûr, on va dire cet aveuglement, c'est un aveuglement envoyé par les dieux, à ce daimon qui ne sera pas nommé, mais constamment qu'on dira, daimon voulant dire dieu, mais ce daimon, c'est cet Athée, ou c'est Arès qui est à l'intérieur des personnages, si l'on veut. Et cette force... on ne peut pas y résister. Et comme le décrit très bien le passage que je viens de vous lire, en plus on fait ça d'un élan léger, d'un pied vif. On est très content. On est très content d'entrer dans l'aveuglement. Au contraire, on va toujours plus loin. Et plus on réussit, plus on va à sa perte. Donc c'est une notion extrêmement forte et qui est doublée. Vous avez d'ailleurs l'échange aussi entre Atossa et Darios qui évoque de nouveau cet athée, vers 719, vers 724 et 725. Et c'est très présent, je le dis, dans l'œuvre d'Eschyle. Et c'est toujours doublé et associé, mais ici, assez peu dans cette pièce, mais c'est toujours associé à la notion d'hubris. Alors j'ai écrit ici aussi hubris, on prononce hubris, on peut l'écrire hubris. Les Anglais, les Américains utilisent le mot hubris tout à fait naturellement dans les articles de journaux. Pour nous, c'est moins naturel. L'hubris, c'est une espèce d'excès, de violence excessive. En français, on le traduit très souvent, la tradition littéraire française est de le traduire par démesure, mais c'est un trop grand mot par rapport à hubris. C'est trop conceptuel, la démesure. L'hubris, le sens de base d'hubris, c'est la violence. C'est la violence, c'est-à-dire le mot pour dire le viol, d'ailleurs, le viol, qu'on traite dans les tribunaux, n'est-ce pas, dans l'Antiquité. Donc c'est la violence impie. C'est ça, l'hubris. Et les personnages qui sont entraînés, donc une espèce d'alliance entre athée et hubris, c'est-à-dire que l'aveuglement fait que les personnages, dans leur réussite, eh bien, en font toujours plus et croient l'emporter. Leur hubris excessive les entraîne et ils tombent donc dans cette catastrophe. Alors vous avez deux fois dans les Perses, vers 808, on retrouve hubris. Vous savez, c'est des notions qu'on peut adapter parfaitement je vois que j'ai dit que c'est une pré-psychologie. C'est parfaitement adaptable à la vie individuelle, à notre vie individuelle ou à la vie collective. Et je me souviens avoir vu, justement, dans un article, je ne veux pas de politique proprement dite, mais j'avais lu un article dans un journal américain au moment de la guerre d'Irak, et on expliquait que M. Bush était dans l'hubris. Mais il ne faisait pas de littérature, hein, le journaliste qui faisait ça, il utilisait le mot hubris pour dire qu'il y avait quelque chose d'excessif, de violence excessive. Alors, on peut appliquer ça à des tas d'événements. Hein. 808... Voilà, il y a le passage, la traduction affaiblit un peu, mais vous voyez, ils sont abandonnés, ceux qui sont restés, donc c'est Darios qui décrit ça. Or là, les guettent encore l'apogée de leurs mots, pris de leur présomption, de leurs pensées impies. Alors la présomption, c'est la traduction qui est faite de hubris ici, c'est-à-dire que ben, voilà, ils ont cru l'emporter sur la Grèce, ils ont cru être les plus forts, et ils font tomber au plus bas. De même, vous retrouvez vers 821 le mot hubris. La présomption en fleurissant donne un épi d'aveuglement. Et là, vous avez le mélange des deux mots avec athée et hubris. Et l'été moissonne des larmes. C'est deux vers assez connus. Donc, qui expliquent bien ce mécanisme. Exercès, c'est complètement dans l'hubris. Dès le début, sans cette idée qu'il allait comme ça dominer la Grèce, qu'il allait comme ça d'un coup de l'emporter. C'est un peu l'hubris, enfin je ne veux pas faire des rapprochements inutiles, mais je citais tout à l'heure l'histoire de la guerre de 14, ben, c'est pareil, quand les Français, au moment où vous suivez ça, en lisant les commémorations et les souvenirs, ben, ils partaient à la guerre, ils étaient persuadés que ça allait durer 15 jours, hein. On allait régler leur compte, c'était valable des deux côtés, d'ailleurs on allait leur régler leur compte, on était les plus forts, etc. Puis tout ça c'était de l'illusion complète, donc c'était athée, était à l'œuvre. Était à l'œuvre. Donc, je pense que ça, c'est un élément fondamental. Et donc, vous avez cette alliance entre athée, hubris, Arès, qui sera nommé tout à fait à la fin, enfin plusieurs fois, mais on le trouve aussi à la fin, j'en reparlerai. Et puis ce daimon qui est justement cité, ça me permet de faire le lien, avec l'épisode de Sikinos, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le piège. Regardez comment c'est fait. Alors, si on prend Hérodote, sur le passage de l'espion. La ruse, c'est livre 8. Thémistocle alors, voyant que l'opinion des Péloponnésiens allait prévaloir sur la sienne, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait laisser abandonner le combat, sortit sans qu'on s'en aperçût du conseil et expédia au camp des Mèdes un homme sur une barque à qui il prescrivit ce qu'il aurait à dire. Cet homme avait nom Sikinos, il était de la maison de Thémistocle et pédagogue de ses fils. Pour lors, cet homme, arrivé sur sa barque, dit au commandant des barbares, le stratège des Athéniens qui se trouve animé de bons sentiments pour la cause du roi et souhaite de voir triompher vos armes plutôt que celles des Grecs, m'a envoyé en cachette des autres Grecs pour vous faire savoir que les Grecs, terrifiés, projettent de prendre la fuite et que vous avez l'occasion d'accomplir le plus bel exploit du monde si vous ne les laissez pas échapper. Je l'ai lu en entier, ce passage, mais au début, vous voyez, on explique bien Sikinos, on donne bien les détails. Alors, qu'est-ce que fait Eschyle, lui, sur ce passage, au vers 353-354, c'est tout à fait parlant, si vous voulez. Pour engager tous ces malheurs, c'est le messager qui raconte ça, ô ma reine, il y eut un vengeur, un daimon pervers, le daimon, c'est le dieu pervers, surgit on ne sait d'où. Et après, il va dire, il y a un certain grec, etc., mais il ne le nomme pas, il ne nomme pas Sikinos. Mais les deux premiers vers, c'est un être qui vient d'ailleurs, c'est un être qui vient, qui n'est pas du monde réel, qui est en quelque sorte présenté comme étant une force de l'au-delà, qui vient tromper les Perses. Et donc, c'est très intéressant de comparer le réalisme, le récit exact fait par Hérodote, et puis la façon dont le poète, dans sa vision des choses, le présente. Parce que ce n'est pas seulement un homme inspiré par Thémistocle qui est un stratège habile, mais c'est derrière tout ça les grandes lois morales et religieuses qui sont à l'œuvre. Alors, dans la même ligne, j'insisterai pas trop, mais dans la même ligne, vous avez évidemment dans la Parodos que j'ai déjà évoqué, vous avez évidemment les pressentiments du cœur, vous avez le cœur. Le cœur raconte, vous voyez, c'est pareil, le cœur, il raconte les événements qui se sont passés et qui sont formidables, puisqu'il n'a vu que ça, lui. Les vieillards, ils n'ont vu que ça. Ils ont vu le départ de l'armée, tout est magnifique, c'est majestueux, il n'y a pas de raison qu'ils soient inquiets. Or, justement, au milieu de leurs propos, comme je l'ai déjà dit, eh bien, tout de suite, ils évoquent l'angoisse qui les étreint. Vous avez ça, par exemple, vers 9, tout de suite au début. « Quand je songe à présent, prophète de malheur, au retour du roi, au retour de l'armée dorée, le tourment point le cœur de mon cœur. » Voilà. Donc, pourquoi il est tourmenté? Pourquoi il est tourmenté? Ben, si, on peut être toujours inquiet quand des gens sont partis au combat, ça c'est d'accord. Mais là, il y a une angoisse profonde qui d'ailleurs s'accompagne très tôt, comme je l'ai souligné tout à l'heure, par le fait qu'il sent bien qu'ils se sont engagés dans quelque chose qui est trop ambitieux, si l'on peut dire. Alors vous avez ces pressentiments, il y a une masse de vers, vous avez le vers 93, j'ai déjà cité, le vers 115, qui évoque ces pressentiments qu'ils portent en eux. « Pourtant mon cœur voilé d'une tunique noire ainsi se déchire de crainte. » Alors il a beau évoquer tout ce qu'ils ont fait de formidable, il est inquiet. Je vous dirais juste avant ces vers, il a évoqué le pont de bateau, sans faire de lien, mais c'est quand même significatif. Et puis ensuite, vous avez, alors évidemment, j'y viens, le rêve de la reine, hein, le rêve de la reine au vers 176 et suivant, où là, on entre tout à fait dans autre chose que le réel, bien entendu. C'est-à-dire que la reine vient voir les vieillards, leur explique qu'elle est très inquiète. Ça commence dès le vers 160, puisqu'elle dit « Une pensée me déchire le cœur. Ami, je vous dirai que partout me suit cette crainte que trop de richesses ne jette au sol dans la poussière la prospérité qu'édifia Darius, favorisé d'un dieu. » Donc il y a une sorte d'angoisse, comme si leur prospérité était menacée parce qu'elle est trop prospère, si on peut dire. Et puis ensuite, évidemment c'est plus précis, c'est ses rêves. Alors elle dit qu'elle a des rêves toutes les nuits épouvantables et que cette fois-ci elle en a eu un, alors particulièrement terrible, où on voit, elle a vu son fils qui essayait d'atteler deux juments qui étaient deux sœurs. Alors on comprend très vite que c'est évidemment, ça correspond à l'Asie et à la Grèce et que en fait il n'arrive pas à maîtriser l'animal qui est la Grèce et que du coup il est jeté à terre. Il est maltraité, elle voit que son fils, d'ailleurs, je signale ça parce que j'y reviendrai un instant, Xerxès, aussitôt qu'il le voit, met en lobeau sa robe sur son corps. Voilà. Donc, alors, elle se réveille, évidemment, elle a vu une scène où son fils est en piteuse situation Et l'interprétation est simple, évidemment, on comprend très bien que c'est la Grèce qui lui résiste, alors que l'Asie est dominée complètement. Voilà, nous-mêmes, on a des rêves dans la vie. Hein, donc ce rêve est une sorte de message qui lui est livré. Et alors, ce qui est plus intéressant encore, aussi intéressant, c'est qu'elle dit que comme elle était très inquiète, là, on est au vers 201, du coup, elle va, en quelque sorte, accomplir un rituel pour apaiser, justement. Et quand elle va devant l'autel des dieux protecteurs, eh bien voilà qu'elle voit une scène où elle voit un aigle qui est pris par un autre oiseau, qui est traduit ici par un épervier, qui est pris et qui est déchiqueté par un épervier. Voilà. Alors là, c'est une scène réelle qu'elle voit. Hein, c'est une sorte c'est en action, c'est une scène réelle, mais qu'elle interprète comme étant un événement significatif qui lui est envoyé. Donc là, vous avez toute une réflexion sur les visions éveillées, qui existent aussi, d'ailleurs, y compris dans la psychanalyse jungienne, hein, où ça fait partie des analyses qui sont faites. Non seulement on analyse des rêves, vous le savez très bien, chez Freud et dans la psychanalyse en général, mais aussi, particulièrement chez Jung, il y a cette importance des visions éveillées qu'on interprète. On a vu des choses, mais de toute façon, dans la vie, on est tous, sans être superstitieux, on a tous des impressions comme ça qui nous sont données à tel et tel moment, qu'on essaye des fois de rejeter, mais enfin, qui peuvent nous marquer. Et donc, évidemment, dans la pensée d'Eschyle, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et dans la pensée, je pense, des Grecs, y compris au 5e siècle. Donc cette vision éveillée, c'est un autre monde qui surgit, c'est indications qui créent l'inquiétude alors qu'on est en fait dans quelque chose qui normalement ne devrait pas y avoir d'inquiétude. Il n'y a rien de réel jusque-là. La seule chose qui aura de réel, c'est quand le messager va arriver. C'est exactement, si vous lisez l'Agamemnon d'Eschyle, qui sera donc son œuvre, sa dernière œuvre, eh bien ça sera pareil. Le cœur des vieillards d'Agamemnon, c'est la même chose, est inquiet alors que tout se passe bien. Tout se passe bien, mais l'inquiétude est de plus en plus grande. Donc c'est parce que ça vient du fond de l'être, ça vient de l'au-delà, si l'on peut dire. Et puis vous avez les prédictions de Darius. Je vais y revenir un instant sur Darius. Mais Darius, au vers 739 à 741, qui annonce Platée, bon ben là c'est parce qu'on croit au pouvoir de prédiction, au pouvoir de vision de ce qui va se passer. Le destin est tracé en quelque sorte. Donc tout ça donne évidemment à l'œuvre une dimension et qui n'est pas une dimension de témoignage historique ou du moins le sublime. Et puis vous avez la scène elle-même dans laquelle se situe cette prédiction de Darius, qui est évidemment la scène rituelle de l'évocation d'un mort, vers 598 à 842. Et je veux dire, le spectre de Darius est bien là. C'est pas... On aura une chose un peu différente dans l'Orestie plus tard, puisque les enfants d'Agamemnon, Oreste et Electre, vont parler à leur père sur son tombeau, vont l'évoquer, mais il va jamais surgir. Il va jamais surgir en tant que spectre. Il va venir en eux, on pourrait dire, ça revient au même, vous me direz. Mais, tandis que ici, effectivement, on a sur la scène un spectre qui, à un moment, appelé par son épouse, eh bien, vient de l'au-delà. Et vient parler. Et évidemment, on comprend très bien que dans les propos de Darius, les propos de Darius ont une fonction qui n'est pas seulement celle qui est prédictive, comme je disais, pour dire c'est une façon de continuer à raconter le récit du messager, il y a de ça, mais c'est aussi la sagesse, le sens profond qui est révélé par ce personnage, ce roi qui vient de l'au-delà et qui est présenté de façon un peu excessive, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme étant évidemment exempt de toute faute, lui. C'est pas, il est le sage et il n'a pas fait d'erreur, alors qu'il avait, évidemment... Mais là, je ne sais pas le raisonnement d'Eschyle. Eschyle veut le montrer comme étant la source de la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, pour aller rapidement, eh bien, il nous montre l'impiété de Xerxès, l'entreprise démesurée. Alors là, il suffit de se plonger dans toute la partie des propos de Darius, n'est-ce pas, vers 722, 725. Eh bien, j'en ai lu d'ailleurs tout à l'heure les passages, n'est-ce pas, quand il pose les questions sur le pont de bateau qui a été fait, mais il dit que c'est épouvantable, évidemment, d'avoir fait cela. Ensuite, vers 744, 752, il revient là-dessus. Voilà. Et là, vous retrouvez tout à fait cette thématique d'Athée et de Lubris. Hélas, comme ils se sont vite réalisés tous ces oracles dont Zeus sur mon fils a fait tomber l'accomplissement. Pour moi, j'avais espoir que les dieux tarderaient à les réaliser. Mais qui se hâte vers sa perte, il trouve un dieu pour l'assister. On dirait que les miens ont su trouver la source du malheur. Mon fils, cet inconscient, aura agi en jeune téméraire. Il s'est flatté de contenir le cours de l'Hellespont sacré, de ce Bosphore où coule un dieu, comme un esclave dans des liens. La passe, il l'a dénaturée, enserrée d'entraves forgées, fabriquant ainsi un chemin immense pour l'immense armée. Simple mortel, il s'est imaginé qu'il vaincrait tous les dieux. Et Poséidon même, l'imprudent. Comment est-il possible? Il faut que la démence ait possédé mon fils. Voilà. Donc là, vous avez vraiment expliqué par Darios le fait que c'est une entreprise démesurée, c'est une entreprise téméraire qui fait preuve d'excès, d'hubris, et cette façon de se comporter, évidemment, ne contient déjà sa perte en elle-même. Et puis, vous avez un passage ou plus précis qui vous parlera peut-être plus, c'est par exemple au vers 807-828, c'est lorsque les Grecs qui sont en train d'essayer de quitter la Grèce se comportent très mal d'un point de vue du respect des autres, quand elles parlent de l'apogée de leurs mépris, de leur présomption, de leurs pensées impies, car les soldats en terre grecque, sans scrupules, ont pillé les statues des dieux, brûlé les temples, fait disparaître les autels, les sanctuaires des daimons, les sanctuaires des daimons sont épars, renversés de leur socle. S'ils ont fait tout ce mal, ils subissent des maux qui ne sont pas moindres, et d'autres se préparent, leur source ne s'épuise, elle jaillit encore, etc. Jusqu'à l'affaire de Platée. Et ensuite, ça sera même pour trois générations, ces monceaux de cadavres témoigneront muettement aux yeux des hommes qu'un mortel ne doit pas viser plus haut que lui. Voilà. Et c'est là qu'on trouve la phrase sur la présomption et l'épi d'aveuglement. Donc là, il y a vraiment, sur un exemple très précis, qui est lié au comportement impie, qui n'est pas sans doute seulement le fait des Perses, hein, mais dans la façon dont Eschyle le présente, évidemment, c'est de donner, à partir de là, à tous les événements qui se produisent, une sorte de cohérence, une sorte d'explication. Et ça, c'est propre à Eschyle. C'est-à-dire que le monde d'Eschyle n'est pas un monde, même s'il nous décrit des horreurs comme là, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une volonté chez Eschyle de trouver un sens aux choses. Alors que c'est pas toujours le cas dans le théâtre de Ripide, par exemple, où il y a des choses comme dans les Bacchantes de Ripide, la pièce des Bacchantes, ben, si vous voulez, on est démuni devant la violence et l'horreur sans explication finalement. Alors que chez Eschyle, il y a toujours la volonté de définir cela, d'inscrire cela dans un ordre. Alors on n'est pas obligé d'adhérer évidemment à sa pensée, mais il y a une pensée optimiste, je dirais, d'un certain côté. C'est-à-dire qu'il y a toujours une explication. Alors, bien sûr, dans l'histoire des événements, ça, on rejoint la phrase d'Aristote que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Eschyle peut broder sur les événements qui se sont effectivement passés ainsi. Mais il n'empêche qu'il leur donne un sens qui est conforme à sa vision du monde. Alors, un dernier point que j'évoque, qui s'inscrit un peu dans cette pensée-là, qui est un peu marginal par rapport à votre sujet, à votre thème, c'est qu'évidemment, ce drame, comme tous les drames d'Eschyle, avec l'évolution, comme j'ai dit, à partir des coéphores, où il va créer un théâtre beaucoup plus événementiel, qui fait penser à notre théâtre moderne, ce drame s'inscrit comme l'Agamemnon, ou comme les Sept contre Thèbes, dans ce schéma général qui est, je dirais, sacrificiel, qui correspond à ce qu'est sans doute l'origine de la tragédie. Alors bien sûr, ça c'est des débats de spécialistes, mais il y a un grand spécialiste qui s'appelle Walter Burkert et qui a écrit un livre qui s'appelle un article qui s'appelle Greek Tragedy and Sacrificial Ritual en 1966, et puis depuis il est toujours vivant d'ailleurs, Burkert, et il développe il a bien développé cette idée en montrant que dans la tragédie, il l'a dit après d'autres, il y a eu Murray, etc. Il y a en quelque sorte l'histoire du pathos, de la souffrance du dieu, en l'occurrence le dieu Dionysos, qui est le dieu de la tragédie. Hein. Et puis ensuite, il y a un traîne, une lamentation, une fois que le dieu subit sa souffrance, même son démembrement dans certains cas, pour ce qui est de Dionysos, et bien ensuite il y a une lamentation funèbre, et au fond la tragédie qui s'inscrit à l'occasion des fêtes de Dionysos contient ce schéma. Alors évidemment c'est théorique, et vous pouvez voir que dans cette œuvre, eh bien c'est une très vaste lamentation que cette œuvre, lamentation funèbre. Parce que même dès le départ, alors je reprends les éléments que j'ai dit, dès le départ, vous avez l'évocation de ce départ formidable, mais tout de suite marqué d'angoisse. Alors on évoque, on donne la liste des héros, des guerriers, des chefs, etc. Mais bon, évidemment, puis on pressent, comme le cœur qui le fait, on pressent que tout ça, c'est une sorte de route vers la mort qui a commencé. Et c'est ça qui se passe dès la parodos. Ensuite, quand vous avez le messager qui arrive dans le premier épisode et qui se met à raconter l'horreur et qui se met à reciter les mêmes personnages, mais en expliquant leur mort atroce, qui baignent dans leur sang, dans l'eau, etc. Donc vous avez une amplification de cette marche funèbre, si je puis dire. Et puis, à la fin, quand vous avez l'arrivée de Xerxès, qu'on attend, parce qu'on est dans une situation d'attente, c'est des pièces de l'attente, hein, c'est des pièces de l'angoisse, des pièces de l'attente. Et quand Xerxès arrive, eh bien Xerxès est dans un état, comme je l'ai dit, il pourrait arriver sur une civière, puisqu'il a tout perdu, il le dit lui-même, il lui reste plus que son carquois pour mettre des flèches. Quand on lui dit, mais de tout ton armement, de tout ce que tu avais, eh bien, il n'y a plus que son carquois, dit-il, il a tout perdu, perdu ses compagnons. Et puis alors, il y a le thème sur lequel je terminerai, qui est symbolique, qui est évidemment le thème de ses lambeaux, de ses vêtements en lambeaux. Alors c'est quelque chose qui m'avait toujours frappé. Et notamment, quand vous prenez le vers 832, je vais le prendre comme ça, vous prenez au vers 832, et quand il y a Darios avec son épouse qui lui parle et qui lui dit, bien sûr, qu'il dresse la leçon que je viens de dire tout à l'heure, et puis tout d'un coup, il parle de son fils, à qui il en veut, évidemment, d'avoir subi l'influence de la tête, d'avoir obéi à son hubris. J'ai oublié de dire aussi qu'il évoque des flatteurs. Il y a une part de réalisme, c'est pas mal. C'est-à-dire que le roi est entouré de gens qui le flattent, mais qui lui disent « Mais vas-y donc, tu es le meilleur, tu vas gagner, lance-toi, les Grecs sont des nuls, enfin, etc. » On peut imaginer ça. Et il écoute tout ça. Et évidemment, c'est les amis qui lui parlent ainsi sont des instruments d'Athée. Bon, alors, ça, le roi l'évoque, le dit à plusieurs, l'évoque bien. Alors ensuite, il dit à sa mère, « Quant à toi, vieille mère chérie de Xerxès, rentre au palais, prépare un bel habit qui soit digne de ton fils et va-t'en à sa rencontre. Dans la douleur de tel malheur, ses vêtements chamarrés flottent sur lui, tout déchirés dans lambeaux. À toi de l'apaiser par de douces paroles, etc. » Alors, on peut être surpris de ce passage. Alors, bien sûr, pas surpris dans le sens où c'est humain, je veux dire, il a beau être Darios, elle a beau être la reine, à tout ça, c'est leur fils. Donc il y a une part d'aspect de parent, en quelque sorte, qui se penche sur... Mais ça fait un peu bizarre, je veux dire. Honnêtement, quand on voit cette remarque, elle paraît un peu accessoire, je dirais, alors, par rapport au drame. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que la thématique, je dirais que là, il y a une sorte de lien profond dans l'œuvre, subliminal, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui est le thème des lambeaux. Et ce thème des lambeaux, eh bien, il commence dès le début de la pièce. Alors, j'ai écrit un petit... Je ne l'ai pas apporté là parce que je ne voulais pas me charger de trop de livres, mais je l'ai republié il n'y a pas longtemps, un article justement sur ce thème-là que j'ai appelé « Poétique du corps dans les Perses d'Eschyle, corps déchiqueté et haillons ». Je l'ai publié dans un livre que j'ai publié en 2010, ça s'appelle « Une vie avec Eschyle ». Bon, ce n'est pas pour faire de la propagande sur ce que j'ai fait, mais c'est pour vous dire que c'est un sujet que j'ai traité de façon détaillée. C'est-à-dire que dès la parodos, le cœur des vieillards, le cœur, c'est sans jeu de mots, c'est le cœur, C-O-E-U-R, des vieillards, est décrit comme étant en lambeaux. Alors je vous donne quelques exemples, pour dire que je vous montrer que je n'invente pas, n'est-ce pas? C'est vers 115. Voilà. Pourtant, je l'ai lu tout à l'heure déjà, pourtant mon cœur voilé d'une tunique noire, ainsi se déchire de crainte. Bon, ça, première allusion, je ne les ai pas toutes relevées. Hein. Ensuite, vous avez les femmes qui sont malheureuses puisque leurs époux, leurs fils sont partis. Et au vers, 700, au vers 125, page 99, vous avez la foule des femmes nombreuses. Et que l'on en lacère, et que le rempart des Kyciens ne résonne de cet écho, ce cri, oh ah, proféré par la foule des femmes nombreuses, et que l'on en lacère, c'est pas facile à lire, parce que si vous avez le texte, vous comprendrez, et qu'on n'en lacère pas, il faudrait dire, les robes de lin. Donc on évoque effectivement les femmes qui déchirent leurs vêtements. Ça, c'est vers 125. Ensuite, vous avez les morts au combat, qui sont décrits dans leur horreur, comme je l'ai montré tout à l'heure, quand ils sont comme des thons dans l'eau. Mais par exemple, très précisément, on nous parle des corps déchiquetés. Vous avez, au vers 576, page 129, alors 129, 576, voilà les corps qui sont tombés à l'eau, le flot cruellement les carde, lasse, hein, c'est le hélas, hein, pâture du peuple sans voix, alors ça c'est les poissons, hein. Hélas, né de la mer inaltérée, ouah, etc. Chaque maison gémit sur qui elle a perdu, voilà, etc. Mais le flot qui carde les corps, c'est les corps qui sont jetés comme ça, et puis qui sont ballottés, et qui sont déchiquetés, et qui sont mangés par les poissons, etc. Donc, autre lambeau. Ensuite, vous avez à la fin, évidemment, et c'est là que je voulais en venir, évidemment, Xerxès en lambeau, vous avez de nombreux passages qui l'évoquent, par exemple, vers 1030, page 163. Voilà. J'ai déchiré ma robe en voyant ce malheur, dit-il. Alors le cœur se lamente, hélas, etc. Ensuite, vous avez, page 169, vous avez également ses vêtements. Déchire sur ton corps ta robe avec tes ongles, arrache tes cheveux, etc. Donc, à la fin, quand Xerxès est sur la scène et qu'il commence à s'orienter vers la sortie, puisque c'est l'Exodos, effectivement, il est complètement détruit, complètement déchiqueté. Et donc, ce que je veux souligner, c'est que Eschyle, en utilisant cette image filée, comme on peut dire, c'est une image qui démarre depuis le début et qu'on retrouve tout au long de l'œuvre, en fait, amène progressivement Xerxès à être un cadavre à la fin et à être mort. Finalement, c'est la mort de Xerxès, même si, dans les faits, je crois que ça illustre ce que je disais sur le fait qu'il mythifie la réalité, il ne peut pas la supprimer, il ne peut pas la changer, mais il la transforme, et bien Xerxès, à la fin, tout vivant qu'il est, et bien est comme un cadavre qui a été assassiné, comme peut être Agamemnon à la fin de la pièce d'Agamemnon, par exemple. Voilà. Donc il y a une sorte de longue lamentation, long cheminement vers la mort. Et il y a quelque chose, la tragédie grecque, j'ai écrit ça dans un de mes livres sur la tragédie grecque, si on était mortel, il n'y aurait pas de tragédie. Hein. La tragédie, elle n'existe que parce qu'il y a la mort, et la tragédie en tant que genre tragique. Après, le mot tragédie veut dire des tas de choses dans notre vie, mais disons, si la mort n'existait pas, il n'y aurait pas de tragédie. Donc la tragédie, c'est le chemin, le cheminement, d'une manière ou d'une autre, vers le meurtre ou vers la mort. Alors, pour terminer, puis là j'ai à peu près dit ce que je voulais vous dire, quelle leçon on pourrait tirer de tout cela sur la guerre? Alors je dirais deux choses. Je dirais d'un côté, cette guerre, elle fonde la gloire et la puissance d'Athènes, hein, cette guerre et cette victoire de Salamine après celle de Marathon. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Périclès et Corège, donc celui qui finance le spectacle et l'œuvre de d'Eschyle, c'est pas pour rien, puisqu'ensuite c'est Périclès qui va être le grand maître d'Athènes et qui va accompagner et faire qu'Athènes va connaître son époque, sa prospérité. Ça va pas durer très longtemps, mais enfin c'est tout le règne de Périclès correspond effectivement à cette prospérité qui est fondée sur ses victoires. Donc et d'ailleurs on pourrait s'appuyer, vous pouvez vous appuyer sur le Péan que j'ai lu tout à l'heure, le chant qui dit « bon, allez, défendez la patrie ». Donc c'est l'aspect totalement positif de cette guerre qui fonde la gloire, qui est fondatrice et salvatrice. Et puis vous avez l'autre aspect qui est la guerre qui met les hommes en lambeaux, n'est-ce pas, et qui est une puissance destructrice, la puissance destructrice d'Arès, le dieu de la guerre, là j'ai écrit le nom, et qu'on trouve d'ailleurs nommé au vers 951, vers la fin, à nouveau, je crois que c'est Xerxès qui dit ça, oui. Voilà, Xerxès dit « Moissonnant pour les Ioniens grâce au vaisseau des Ioniens, Arès, donnant la force à un seul camp, a arasé les eaux de nuit ainsi que le fatal rivage. » Donc il est arrivé à ses fins qui étaient la destruction, puisqu'Arès, par définition, c'est un dieu de destruction. Mais la guerre, c'est aussi la guerre qui sauve les Grecs et qui fonde leur gloire. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vous avoir intéressé.
Voilà, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à propos du texte.
Oui, j'ai pas beaucoup fait de grec parce que je savais que c'était pas vraiment des hellénistes.
Oui, mais peut-être on pourrait revenir un tout petit peu sur les quatre mots pour commencer, le temps que les élèves préparent leurs questions et proposer ou discuter des traductions possibles. Enfin, pour Arès, il n'y a pas de problème, oui. Mais pour...
Athée, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de traduction vraiment faisable. C'est-à-dire on le traduit par athée, finalement. Oui. Et après, il faut expliquer dans une note, parce que c'est une notion, il n'y a pas d'équivalent. Alors, bien sûr, on dit c'est l'aveuglement, c'est l'illusion, mais c'est une sorte de notion, une sorte de concept qui exprime cet aspect des choses, mais on n'a pas d'équivalent vraiment en français. Alors, hubris... Bah, j'ai un peu évoqué ça, hubris, en français, donc la tradition, c'est de traduire par des mesures. Bon, c'est pas aberrant, hein. Dans certains cas, ça va très bien, mais quand on examine tous les emplois de hubris en grec, hein, chez d'autres auteurs qu'Eschyle, partout, on se rend compte que c'est pas suffisant. Et puis en plus, l'étymologie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... sur lesquels on s'est penché, et ça veut dire la violence. Il y a une notion de violence qui est dans ce mot. Alors, donc, la violence excessive, il y a toujours de la violence dans l'hubris.
Voilà. La violence par elle-même comporte la démesure, de toute
façon,
voilà, déjà, l'excès.
Voilà. C'est pour ça que le mot violence, c'est pas mauvais comme traduction, même si, évidemment, il y a des tas d'autres mots en grec pour dire violence. Mais à une époque, si vous lisez les traductions du début du XXe siècle, tout le monde traduit ça par des mesures. Alors, mais il n'y a qu'en France qu'il y a une traduction de ce genre. Voilà. Donc ailleurs, c'est plutôt, comme disait tout à l'heure, la présomption, l'orgueil avec l'orgueil. Enfin, vous savez, les traductions, c'est toujours un pis-aller, de toute manière. Hein. Et plus j'ai avancé dans ma vie d'helléniste, moins j'ai eu envie de traduire. C'est-à-dire que je trouve que c'est mieux de lire le texte tel qu'il est. Non, mais c'est vrai. Parce que on se rend compte, à une époque, j'étais passionné de traduction, puisque justement cette traduction d'Eschyle, je l'ai faite quand j'ai commencé quand j'étais au lycée. Et après, elle a été revue, etc. Elle a été publiée en 60 et quelques, la première version. Donc c'était mon plaisir, c'était de traduire. Bon, j'ai toujours aimé traduire et traduire, recopier mes traductions, traduire. Et puis aujourd'hui, enfin, c'est plus la même chose. Je trouve que justement, on se rend compte des limites de la traduction. Chaque fois qu'on se replonge dans le texte, on dit, mais c'est beaucoup plus riche que... Bon, c'est facile à dire, hein, mais il faut déjà commencer par traduire, c'est vrai. Il n'y a pas d'équivalent, ni à athée, ni à hubris, vraiment satisfaisant. Voilà.
Tragédie de la guerre, c'était le titre de l'exposé. Tu as fait allusion, disons, à l'idée de la tragédie comme rite funéraire. Comment on peut articuler ces deux dimensions, la tragédie comme rite funéraire et la tragédie de la guerre? Est-ce que c'est si facile? Sans entrer dans le détail, parce que c'est une thèse quand même.
Oui, non, mais oui, c'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, par rapport à ce rituel, en fait, originel, de toute façon, il y a. C'est d'abord les destinées individuelles, c'est donc la mort, c'est l'assassinat. Enfin, on pense effectivement à Agamemnon, par exemple. Mais Eschyle l'associe tout de suite à des événements, parce qu'il y a chez Eschyle un sens de, comme je disais, du cosmique. C'est bien pour ça que j'ai appelé un de mes livres Eschyle poète cosmique. Il y a quelque chose qui fait que tout de suite, ça dépasse l'individu. Donc, la guerre s'inscrit dans une destinée tragique au même titre que la destinée d'un individu. Et c'est pour ça que les Perses, il peut le traiter, même ces événements historiques. Puis c'est vrai que de toute façon, les peuples, les entités humaines, ben, de toute façon, sont voués, souffrent aussi des tragédies de la même manière. Enfin, je trouve que c'est... Il inscrit la guerre, je dirais que je retournerai comme ça, il inscrit la guerre dans le destin tragique qui est celui de l'humain.
Oui. Moi, je voudrais revenir sur les origines de l'hubris. Mmh. Et il me semble quand même que dans la pièce, l'hubris ou la démesure de Xerxès, elle est liée à la relation avec son père. Une espèce de relation de rivalité oedipienne
peut-être,
entre
ouais.
Darius et Xerxès. Donc, à ce moment-là, la tragédie, c'est moins la tragédie des Perses et contre les Grecs, que la tragédie au sein même de la filiation et au sein même finalement de, enfin, je ne vais pas employer le mot cité pour les Perses, mais au sein même donc du groupe familial, comment dire, des Perses. Mmh. Et donc à ce moment-là, c'est aussi quelque chose qui peut intéresser le public grec, puisque vous avez beaucoup cité Agamemnon. La tragédie, c'est aussi des tragédies qui ont lieu au sein des
familles. Oui, bien sûr, à des familles. Oui.
Et donc, la guerre, c'est aussi la guerre entre proches, la guerre entre la guerre civile dont le spectre traverse les Euménides, les Coliformes.
Oui, oui. Écoutez, oui, c'est très intéressant. Effectivement, c'est pas du tout contradictoire avec. Au contraire, ça c'est un élément effectivement de la transformation par Eschyle d'un événement historique qui est celui effectivement de la lutte entre Grecs et Perses, qu'il peut l'inscrire dans une autre dimension. Et celle-là, je m'y suis jamais vraiment plongé, mais je la conçois très bien, parce que, alors évidemment, c'est pas très développé, mais c'est implicite par certains côtés, puisque le fils va détruire, est la cause de ce qui s'est passé, elle va détruire ce que le père avait fait, et le père le savait, les prédictions l'avaient dit, etc. Bon, c'est pas très développé comme.
À la fin du texte, quand le cœur reprend la parole, il mesure aussi toujours les actes de Xerxès à l'aune de ce que Darius.
Ah oui, bien sûr, il est le pendant, mais cela dit, on transforme évidemment la réalité aussi là, puisque Darius est sans doute, il a construit cet empire, mais tout n'est pas si parfait que le cœur l'évoque, bien sûr. Mais c'est intéressant, oui, je suis assez d'accord
dans
avec
le rêve d'Atossa, les deux femmes qui sont accrochées au char, le mot grec qui est employé, enfin, c'est bien la querelle, la stasis, entre la Perse et la Perse.
Ah oui, absolument.
Même si mythologiquement, effectivement, elles sont issues de la même famille.
Ah oui, c'est ça, puisque c'est l'histoire de Tétis et d'Océan. Oui, c'est une histoire de famille, oui, si on peut dire aussi par là.
Est-ce que même des questions pas compliquées, hein, vous pouvez poser des questions simples. Oui, oui, je vais vous donner la main.
Bonsoir. Je voulais juste savoir par rapport au concept daté que vous aviez développé ou data, vu que c'est cité comme ça dans l'œuvre. Est-ce que c'est un concept qu'on retrouve dans d'autres tragédies de l'époque ou c'est un concept propre à Eschyle?
Ah, c'est quand même une pensée très eschyléenne. On trouve athée aussi chez d'autres écrivains, mais c'est pas au cœur de la pensée de Sophocle ni de Ripide. C'est vraiment très propre à Eschyle. Oui, il y a aussi il y a effectivement des c'est une notion qui est reprise, parce que Eschyle de toute façon a marqué y compris ses successeurs qui reprennent une thématique, et ça veut dire la folie aussi athée à un moment, folie dans laquelle les hommes se laissent entraîner, mais une force enfin à ce point c'est quand même propre à Eschyle. Oui.
Vous avez parlé de tragédie de la guerre, mais est-ce pour autant légitime de parler de fatalité de la guerre comme on a pu le faire au siècle dernier?
C'est-à-dire, je voulais dire, la guerre doit nécessairement exister, c'est ça?
Est-ce légitime d'y voir un avenir tout tracé?
Je veux dire, le mot légitime n'est pas forcément adapté pour ça, puisqu'il n'y a rien de légitime là-dedans. Légitime, ça fait allusion à la loi, donc c'est une conception religieuse du monde qui est derrière. Enfin, il y a deux choses dans ce que vous me dites, puisque vous parlez de la guerre d'abord, et puis ensuite de ce qui est tracé. Donc, ces deux idées. Donc, je veux dire, la guerre, j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure en montrant quand même dans le texte d'Eschyle, il y a des aspects épouvantables de la guerre qui sont évoqués, et puis il y a le fait que c'est le salut de la patrie qui s'appuie, hélas, ça dépend quel point de vue on a, mais qui s'appuie sur la guerre. Bon, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Par ailleurs, par rapport effectivement que tout est tracé, ça c'est une autre conception, c'est une conception religieuse du monde, une sorte de vision totalisante du monde, c'est-à-dire que tout se tient. Et rien n'est accidentel, rien n'arrive par hasard. Ça, c'est sûr que la pensée d'Eschyle s'inscrit là-dedans. Et beaucoup de pensées dites archaïques s'inscrivent là-dedans. Alors après, le monde moderne a d'autres regards, mais ça n'exclut pas, malgré tout, la recherche de cohérence et au-delà des événements qui peuvent se produire dans nos vies à nous, dans la vie de la société. Donc la pensée d'Eschyle, elle n'est pas, la pensée d'Eschyle et d'autres pensées du même genre, n'est pas complètement inutile pour nous.
Une autre question ? Oui.
Bonsoir, toujours sur le concept de athée. Je me demandais s'il y avait vraiment un concept dans le grec original de aveuglement physique. Alors comment ça serait avec la relation avec l'aveugle inspiré qu'on trouve dans la culture grecque?
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire oui, parce que c'est parce que j'ai traduit par aveuglement. Alors, on traduit par aveuglement. On évoque un peu cette façon dont on est entraîné de façon aveugle dans des événements. Donc c'est une façon de traduire qui n'est pas forcément liée au mot aveugle proprement dit. Maintenant, ce que vous dites et la relation que vous établissez à travers la traduction est juste. Bon, mais en même temps, l'aveugle que vous évoquez, l'aveugle qui est inspiré, souvent il est dans le vrai, celui-là. L'aveugle Tirésias, il connaît la vérité. Et le personnage d'Édipe qu'on évoquait, le personnage d'Édipe lui-même, quand il s'aveugle, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire quand il s'aveugle, c'est plus quand il est dans l'aveuglement, si on peut dire. C'est au contraire quand il devient lucide, à la limite, il s'aveugle à la fin. Donc il y a une sorte de... C'est plus un jeu sémantique qu'on peut faire, ou symbolique, autour de cette notion d'aveuglement. Dans l'aveuglement de la tête, il n'y a pas de révélation. Voilà. C'est ce que dans l'aveuglement du prophète, là, et par contre, il y a une révélation. Mais on pourrait dire que le cœur... souvent les cœurs de vieillards, d'ailleurs, le cœur des vieillards, ici, en Perse, et le cœur des vieillards d'Agamemnon, ils sont, par l'angoisse qui les habite, ils ont une fonction de prophète. Et ils ont une sorte, ils sont comme le prophète aveugle, effectivement. Par contre, ils savent trouver par quoi le héros, lui, par contre, est en train de s'aveugler. Voilà. Donc c'est plus un jeu de mots qu'on peut faire là-dessus.
Revenir un peu sur le côté positif de la guerre, puisque vous l'avez souligné finalement à travers la glorification, la défense de la démocratie. Est-ce qu'il y aurait quelques éléments de synthèse à ajouter
sur ce sujet? De synthèse, on peut pas dire que chez Eschyle il y a la glorification de la guerre.
Oui.
Jamais. Jamais. Non.
Dans la culture grecque, il y a une glorification de la guerre.
Chez Eschyle, il n'y a pas vraiment, on ne trouve pas spécialement, tout en étant lui-même le guerrier, comme il le dit lui-même, comme son épitaphe le dit elle-même, comme son œuvre le révèle, la guerre est présente. Mais il y a toujours, dans toutes les œuvres d'Eschyle, il y a toujours des phrases qui soulignent finalement le malheur, la catastrophe. Donc on ne peut pas dire qu'on puisse trouver... maintenant, il y a la gloire qui apparaît, mais dans les Perses, on ne peut pas aller beaucoup au-delà de ce que j'ai pu dire là-dessus.
Oui.
Quand on met en parallèle le texte d'Eschyle et puis les épopées homériques, parce qu'on a une inversion des épopées homériques, on a peut-être aussi une autre définition qui est donnée du héros, qui dans la pièce est un héros collectif animé par un idéal civique qui est celui donc de la cité. Oui. Et là, il n'y a plus de, comment dire, Thémistocle n'est pas, par exemple, cité dans le texte.
Non, absolument, absolument.
Donc c'est... là, il y a quand même quelque chose
d'intéressant
qui se passe au niveau de la représentation de la guerre.
Oui, donc chez Eschyle, il n'y a pas, effectivement, ce que vous dites est très juste, et on pourrait imaginer une pièce qui aurait mis en malheur vraiment ce caractère héroïque de cette façon-là. Non, c'est pas du tout, c'est... Donc on ne peut pas réinventer le, ce qu'a fait Eschyle. Mais je crois qu'il n'y a jamais chez Eschyle, on ne trouve pas chez Eschyle ce qu'on pourrait vouloir trouver en pensant justement à des textes de, des orateurs sur la guerre, la défense de la cité, etc. Mis à part le passage du Péan, bien entendu. Et puis par une sorte d'inversion, on comprend très bien qu'à travers cette catastrophe, c'est effectivement les Grecs qui sont formidables. Mais il n'y a pas une jubilation particulière qui est exprimée et qui ressort de cette œuvre.
Je remercie donc encore une fois Bernard Deforge d'être venu. Et puis je vous dis donc au 18. Voilà, merci.